Bien bonjour aux braves qui sont restés dans ce nouveau doigt alors que partout ailleurs il fait beau soleil. Merci pour ce temps de vacances que vous avez profité. En tout cas, les enseignants en ont bien profité puisqu'on avait congé depuis le mercredi, ce qui fait qu'on a presque une semaine de vacances. Voilà, j'aimerais qu'on puisse continuer cette série sur de la parole aux actes. Dans l'évangile de Matthieu, pour changer, au chapitre 22, Jésus raconte la parabole d'un roi qui marie son fils et qui invite de nombreuses personnes à son festin. Hélas, alors que tout est prêt, et malgré plusieurs demandes, personne ne vient. Tous prétextent une excuse et se montrent indignes d'un tel honneur. Le roi invite alors tous ceux qui sont au dehors jusqu'à ce que la salle du banquet soit remplie. La seule condition pour y assister est d'avoir revêtu son habit du dimanche. Un homme va s'introduire dans cette fête sans cet habit, sans avoir changé de vêtements, et il représente un petit peu toutes les personnes qui sont entrées dans le royaume sans que rien ne change vraiment dans leur cœur et dans leur disposition dans leur vie chrétienne. Et Jésus va parler de cet homme en disant qu'il était jeté dehors. Et il conclura cette parabole du royaume en disant, au verset 14 du chapitre 22 de Matthieu, « Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. » Le contexte de cette parabole est clairement le salut en Jésus-Christ. Malheureusement, si tous sont appelés à se tourner vers le Christ, tous ne l'acceptent pas. Tous ne lui donnent pas leur vie. Et Jésus a certainement dû être triste en prononçant ces paroles, lui qui était venu sauver tous les hommes. Le problème, c'est que parfois, nous, en tant que chrétiens, on tord un petit peu les versets de la Bible, celui-ci en particulier, et on peut utiliser ce verset, le justifier, par le fait que, eh bien, on n'est pas vraiment appelé au service. Puis de toute façon, il y a beaucoup d'appelés, mais moi, je ne suis pas élu. Et ça me va bien. Non. C'est une grave erreur héritée de l'Église catholique qui consiste à faire une différence entre le clergé, composé de moines, de prêtres, d'évêques, de cardinaux et de papes, et le peuple. Le premier fait tout, dirige tout, pense pour tous, alors que le second se contente d'écouter et d'obéir au premier, sans jamais prétendre à une quelconque initiative. Luther, le premier, puis tous les réformateurs par la suite, ont mis un terme à cette notion de séparation entre l'élite des prêtres et la masse silencieuse et passive. Une des grandes forces de la réforme, puis des différents réveils qui lui ont succédé, est ce qu'on appelle le sacerdoce universel. C'est-à-dire le fait que chaque chrétien, chaque chrétienne est, en tant que disciple de Jésus-Christ, un serviteur, une servante appelée à servir dans l'Église et hors de l'Église, dans un service particulier. Quel est le vôtre ? C'est bien ce que l'apôtre Pierre dira dans sa première épître au chapitre 4, le verset 10, « Puisque chacun a reçu un don, mettez-le au service des autres en bons intendants de la grâce si diverse de Dieu. » Et c'est vrai que certains reçoivent un appel dans la gestion spirituelle, d'autres dans différents secteurs de la vie de l'Église, mais tous sont appelés à servir. Je suis appelé à servir, tu es appelé à servir, et nous sommes tous élus, tous dignes, tous aptes pour le service, depuis le jour de notre conversion jusqu'au jour de notre mort. Si vous en doutiez, n'en doutez plus. Au risque de vous surprendre, c'est vraiment ce thème de la parole aux actes que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. J'espère que vous trouvez ce thème passionnant, Parce que plus on lit le livre des Actes, plus notre cœur est rafraîchi, enthousiasmé par ce que faisaient ses premiers disciples. Et ma prière, et certainement votre prière, c'est « Seigneur, j'aimerais vivre les mêmes choses qu'eux ». Et en lisant le livre des Actes, c'est ce qui se passe dans notre cœur. Et pour ce qui est de l'appel au service de Dieu, le livre des Actes foisonne d'exemples que je vous propose de découvrir ou de redécouvrir. D'abord, je vous propose d'ouvrir votre Bible dans le livre des Actes, le chapitre 13. Et nous lirons les trois premiers versets. C'est ce petit verset, en tout cas un des versets que vous avez sur votre petit feuillet. « Il y avait dans l'église qui était à Antioche des prophètes et des docteurs, Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaen, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saul. Pendant qu'ils célébraient le culte du Seigneur et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Amen. Quel beau texte! Vraiment, quel beau texte! Dans le cadre d'un culte comme celui d'aujourd'hui, ce n'était pas différent à l'époque que maintenant. Le Saint-Esprit parle pour mettre à part deux hommes parmi les cinq prophètes ou docteurs qui étaient dans l'Église en vue d'un ministère d'apôtre. C'est le Saint-Esprit qui appelle pour son œuvre. Et en relisant ces versets, j'ai été surpris, et oui, ça arrive, de lire ce verset 2 en disant « Le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Et je me rends compte ainsi que c'est le Saint-Esprit qui appelle les hommes et les femmes pour son œuvre. Grâce à cet appel divin, l'évangélisation du monde va vraiment pouvoir commencer. Grâce à cet appel divin, les chrétiens vont apprendre à ne plus se focaliser sur leur propre église locale, mais à considérer l'extérieur comme étant le champ de Dieu, là où petits et grands devront apprendre à investir. Et puis, si je vais sortir un petit peu de ce livre des Actes, en Éphésiens, le chapitre 4, le verset 7, puis les versets 11 et 12, Éphésiens 4, verset 7, puis les versets 11 et 12, il est dit ceci, « À chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, cela en vue de l'œuvre du service et de l'édification du corps de Christ. » Ici, le texte nous apprend que c'est Jésus qui appelle et qui distribue ses dons. Alors non, ça ne contredit pas le texte précédent. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, ça reste Dieu et c'est lui qui appelle les disciples à un ministère de conduite en vue de l'œuvre du service. Ça veut dire pour que chacun, chacune, puisse entrer dans son service. Voilà pourquoi les ministères sont aussi là, pour nous permettre à chacun de pouvoir entrer dans le service que Dieu désire nous donner. Et actuellement, après des études de théologie, les candidats sont souvent consacrés au ministère à travers une cérémonie. Le ministère va certainement et souvent dépasser le cadre de la vie de l'Église locale et puis aura pour la plupart un mandat à vie. Quand Dieu appelle, il appelle. Et puis, j'aimerais aussi vous parler d'un autre passage dans le livre des Actes qui parle aussi d'une élection ou d'un appel. Cette fois-ci, ça sera au chapitre 6 et nous allons parler des diacres. Et je vous propose de lire les six premiers versets d'Actes 6. Je lis En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, ce qui est une bonne chose, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent « Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rendre un bon témoignage, qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous, nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. » Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Prochor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélyte d'Antioche. Ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. La parole de Dieu se répandait de plus en plus, le nombre de disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et une foule de sacrificateurs obéissait à la foi. L'appel pour devenir diacre diffère un petit peu des 5 ministères. On voit que la portée du diaconat est essentiellement locale, elle est parfois ponctuelle. Mais la plus grande différence n'est pas ceci. La plus grande différence, c'est que il semble que ce n'est pas Dieu qui va donner l'impulsion première. En fait, dans la difficulté que vivait cette première église, les apôtres ont proposé aux membres de l'église de choisir eux-mêmes des personnes qui avaient un certain profil pour les assister dans leurs tâches. Une fois choisis, ces diacres vont être présentés aux apôtres qui vont confirmer le choix de l'Église et qui vont prier pour eux. En d'autres termes, les membres de l'Église ont ce discernement nécessaire pour reconnaître parmi eux ceux et celles qui ont une dimension sociale et spirituelle et qui sont prêts à consacrer du temps pour cela. Et quant aux différents demandes, il est dit que chacun devait être rempli du Saint-Esprit de sagesse et qu'on ait un bon témoignage d'eux. Alors, j'ai toujours été surpris par ces 3 conditions. Parce que je me disais, parce que des fois je me parle à moi-même, et je me dis, mais Jean-Jacques, est-ce que ça, c'est pas l'apanage de chaque chrétien d'être rempli du Saint-Esprit? Est-ce que chaque chrétien ne devrait pas être rempli de sagesse? Et si on n'en a pas, Jacques nous dit que celui qui n'en a pas la demande afin de l'obtenir. Est-ce qu'on ne devrait pas tous avoir un bon témoignage? Puis la réponse, elle tombe sous le sens, c'est oui. Chaque chrétien ici, dans cette salle, et tous ceux qui m'écoutent, devrait être normalement dans ses dispositions d'être rempli de Saint-Esprit, de sagesse et de ce qu'on rende d'eux un bon témoignage. Amen. Bien. Ça voudrait dire que si on juge d'une façon tout à fait personnelle que nous sommes des personnes remplies de Saint-Esprit, de sagesse et de qui en rend témoignage, ça veut dire que nous sommes vraiment aptes pour le service. Si on se juge nous-mêmes déjà dans des circonstances qui sont favorables, reste le déclic. Et plaise à Dieu que ce soit aujourd'hui, si ce n'est pas encore fait. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que les chrétiens de l'Église avaient cette autorité, ce regard, ce discernement pour voir au milieu d'eux ce qui pouvait être le mieux utile pour un service particulièrement pratique dans l'Église. Et le résultat en a été assez étonnant, puisque j'ai désiré continuer la lecture, habituellement on s'arrête au verset 6 quand on parle des diacres, puis le verset 7 m'a beaucoup plu aussi. D'abord parce que c'est la parole de Dieu, puis ça a un sens, ce verset 7, par rapport aux 6 premiers versets que nous avons lus. Et ce verset 7, c'est « La parole de Dieu se répandait de plus en plus, le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. » Ça veut dire que le résultat est vraiment étonnant quand les membres de l'Église trouvent leur place. Et plutôt qu'un homme orchestre, on commence à devoir de plus en plus voir un orchestre avec de nombreuses personnes qui vont composer une merveilleuse symphonie pour Dieu. Pas parce qu'ils sont particulièrement doués, mais parce que chacun apprenait et acceptait de vivre dans son domaine de compétences et dans son appel. Alors permettez-moi de faire un petit jeu de rôle, un petit peu humoristique, dans le cadre d'un des secteurs de l'Église. Je vais vous parler de l'école du dimanche. J'en vois déjà des gens qui se grincent, des cœurs qui se ferment. Non, mais c'est chronique. Il manque toujours des moniteurs de l'enfance. Toujours. L'enfance est une force dans notre Église. Nous le savons, nous le disons. Parfois, nous en sommes même un petit peu fiers, reconnaissons-le. 170 enfants de 0 à 16 ans répartis en 6 groupes. Waouh ! Il devrait y avoir au moins 50, 60 moniteurs. Non ? Or, ce chiffre est loin d'être atteint. Et c'est dommage, parce que si c'est une force de l'Église, je peux faire qu'elle soit une force, ou je peux déforcer cette force. Alors, fidèle à Acte 6, puisque j'ai appris à passer de la parole aux actes, je m'en vais donc dans cette dimension d'Acte 6, regarder autour de moi qui pourrait être moniteur de l'école du dimanche. Alors je regarde et j'en trouve un ou une. Alors, rapidement, je vais checker. Rempli du Saint-Esprit, oui. Rempli de sagesse, oui. Bon témoignage, oui. Parfait, je vais y aller. Est-ce que tu serais d'accord de faire partie des moniteurs de l'école du dimanche? Non, parce que tu sais, moi, les enfants, je suis vraiment vite dépassé. J'ai peur de mal faire, j'ai peur de me tromper, j'ai peur d'être adéquat. Alors, je suis prêt à assister à une rencontre, une soirée même, sur l'adolescence avec Denis Morissette. D'ailleurs, c'était super, mais qu'est-ce que j'ai appris de choses ? Mais de là, être moniteur pour des ados et pour des enfants plus jeunes, mais c'est pas du tout pour moi. Alors, non, non, non. Alors, zut, je me dis, mince. Pour une fois que je veux mettre en parole, en pratique, acte 6, ça marche pas. Mais j'ai une petite idée. Et je vais voir quelqu'un d'autre, cette fois-ci, qui est enseignant. Je dis, waouh, ça c'est bon. Parce que lui ou elle, d'abord, les enfants, ça le connaît. Il n'y a pas de problème, c'est une personne qui est formée, qui est professionnelle, c'est un trésor dans l'Église. Et je vais vers cette personne, mais avant je check. Rempli du Saint-Esprit, oui, rempli de sagesse, oui, bon témoignage, oui, c'est parfait. C'est pas difficile, il y en a beaucoup ici qui sont comme ça. Et puis, je dis, ouais, j'ai pensé à toi, toi qui es enseignant, toi qui es enseignante pour l'école du dimanche. Et je l'écoute qui me dit, ah maintenant, tu sais, moi, les enfants, j'en vois toute la semaine. Alors, j'en ai un petit peu ma claque. J'aimerais vraiment faire autre chose, je ne sais pas quoi, je suis un petit peu dans l'expectative, je ne sais pas quoi, mais pas les enfants, parce que je suis débordé. Puis je m'arrête, puis je me dis, mais qui est compétent ? Parce que les gens qui ne sont pas compétents, ils le disent et s'en protègent. Et les gens qui sont compétents, ils sont débordés, puis ils aimeraient vivre autre chose. Je me dis, mais il n'y a personne finalement. Donc on va supprimer le domaine de l'enfance de l'Église. Comme ça, ça résout tous les problèmes. Là, le président se lâche. Seigneur, efface cette parole. Alors la vraie réponse, elle ne vient pas des sentiments que je pourrais avoir, ni même des capacités qui sont les miennes ou de mes incapacités. La vraie réponse vient de mon esprit de service. Heureusement qu'il y en a d'autres, formés ou non, qui ont répondu présent à l'appel du Seigneur et qui s'impliquent pleinement dans un service de l'Église en pleine croissance. Et je ne parle que de l'enfance, mais j'aurais pu parler aussi d'autres choses. Et j'aimerais vous remercier, vous tous qui êtes entrés dans ce service pour l'Église, dans les différents domaines, parce que votre aide est précieuse. Mais on ne va pas dire qu'il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. On va dire qu'il y a beaucoup d'appelés et beaucoup d'élus. Ça veut dire que si je suis rempli du Saint-Esprit, rempli de sagesse et avec un bon témoignage, je suis quelque part disponible pour Dieu dans un service, dans l'Église et hors de l'Église. Et là, j'aimerais lancer un appel à tous les responsables de secteur, quels qu'ils soient, que ce soit un appel, que ce soit un secteur spirituel ou plus pratique ou administratif, faites comme les chrétiens de Jérusalem. Priez, cherchez la face de Dieu et trouvez le nom de personnes qui pourraient convenir pour votre service, pour l'équipe peut-être qui vous fait défaut encore ou il vous manque des gens, et allez vers les gens. Et vous commencez comme ça. J'ai prié. Et Dieu m'a vraiment montré que tu étais rempli du Saint-Esprit. Ça fait toujours plaisir à entendre. Rempli de sagesse, merci. Des fois, j'en doute, mais merci. Un bon témoignage. Ah, enfin, quelqu'un qui le voit. Voilà, donc tu es apte parce que j'ai vraiment prié pour que tu puisses rejoindre mon équipe. Est-ce que tu serais d'accord? Puis avant de répondre non, parce que vous aurez tellement de bonnes réponses négatives, réfléchissez où est votre cœur de serviteur. Parce que Dieu recherche des personnes qui non seulement ont des bras, mais aussi un cœur. Et dans l'Église, nous avons des bras et nous avons un cœur. Et j'aimerais vous proposer de vous laisser interpeller par Dieu au travers de ces frères et sœurs qui viendraient vous trouver en vous disant « Ne résistez pas à l'appel. » Ça va, vous tenez le coup, parce que ce n'est pas fini. Il y a aussi les anciens. C'est ma troisième et dernière partie, comme ça vous voyez un petit peu quand ça se terminera. L'appel aux anciens, pour être ancien, est intéressant parce que la Bible propose plusieurs cas de figure qui sont complémentaires. D'abord, en acte 20, revenons au livre des actes, le verset 28, il est dit quelque chose qui nous plaira, puisqu'on l'a déjà un petit peu compris dans acte 13. « Prenez donc garde à vous-même, nous dit la Bible, et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, c'est-à-dire ancien, pour paître l'Église du Seigneur, qu'il s'est acquise par son propre sang. » Donc on voit ici que les anciens sont établi par le Saint-Esprit. Ça, c'est bien. Et puis, il est dit ensuite, en acte 14, une autre façon de choix, puisqu'il est dit au chapitre 14, le verset 23, « Les apôtres firent nommer des anciens dans chaque église, et après avoir prié et jeûné, ils les recommandèrent au Seigneur en qui ils avaient cru. » Alors les anciens sont d'abord appelés par le Saint-Esprit qui les établit dans l'Église, mais aussi par les apôtres qui discernent leur potentiel et leur qualité. Paul d'ailleurs demandera à Timothée et à Tite d'établir des anciens dans chaque ville. C'est donc aussi une grande responsabilité de la part de ces leaders, d'abord de bien discerner les futurs anciens, mais aussi d'avoir le courage d'aller leur proposer. Et puis finalement, nous trouvons en 1 Timothée 3, le chapitre 1er, cette parole qui dit ceci, et ça commence comme ceci, « Cette parole est certaine, Si quelqu'un aspire à la charge d'ancien ou d'évêque, il désire une œuvre excellente. Ce texte est aussi important. Il nous apprend qu'une personne qui aspire à une telle charge peut elle-même en faire la demande. Quelqu'un peut donc désirer, aspirer dans le sens le plus profond, le plus spirituel du terme, à remplir cette fonction, non pas pour boucher un trou ou pour remplir un quota qu'on aurait défini, ou alors pour faire plaisir, mais pour vraiment entrer dans les œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance pour que nous puissions y marcher. J'aimerais conclure en disant ceci. Là, j'ai fait un appel pour les responsables de secteur. J'aimerais faire un appel pour les autres. En disant, j'aimerais solennellement vous encourager à réfléchir à l'appel que vous avez reçu. C'est peut-être un appel au ministère, un appel pastoral, un appel d'évangéliste ou autre. Et la question que Dieu se pose, c'est qu'est-ce que tu en as fait ? C'est peut-être un appel pour être ancien, pour être diacre. Et puis la question, c'est où est-ce que tu en es dans ce processus ? Mais c'est avant tout et premièrement un appel à répondre à ce que Dieu t'a montré depuis longtemps sans peut-être que tu en fasses quelque chose. Parce que le temps est le meilleur moyen d'étouffer l'appel que Dieu nous a adressé. Et avec le temps, on se dit, peut-être que tu te dis peut-être que tu n'as plus l'âge. Voilà. Ou que tu n'as plus le temps, ou que tu n'as plus la force, ou que tu as assez donné. Sache qu'il n'en est rien. Tu n'es pas trop âgé, tu n'es pas sans temps, tu as assez de force, et ce n'est pas à toi à dire que tu as trop donné, c'est au Seigneur. Et quand tu auras suffisamment donné, le Seigneur te reprendra. Aujourd'hui, Dieu désire te réveiller. Et il te dit, comme il me dit, lève-toi, réponds à mon appel. Laisse-toi être touché par ma voix qui t'appelle, que ce soit au travers de mon esprit, dans un culte public ou dans son culte personnel, d'un responsable de secteur, un responsable d'église, ou de plusieurs chrétiens qui discernent quelque chose en nous, qui est latent et qui a besoin de naître. Passons vraiment de la parole aux actes, passons de la théorie à la pratique, passons de la passivité à l'action, passons du salut au service. Puisque chacun de nous a reçu un don, mettons-le au service des autres, en bon intendant de la grâce si diverse de Dieu. Alors j'aimerais qu'on puisse s'arrêter, fermer les yeux et réfléchir à ce que Dieu nous a dit depuis longtemps ou ce matin, à l'appel qui est sur notre tête, dans notre cœur. Et puis, ma prière, c'est aujourd'hui, si tu entends la voix de Dieu, ne résiste pas à son appel. Laisse-toi toucher par son esprit. Laisse-toi remplir de lui. Et alors qu'on est tous ensemble dans ce lieu, j'aimerais faire un appel à l'appel. Ce n'est pas un appel spectaculaire, c'est un appel où on va dire « Je suis prêt, Seigneur. Je ne pensais pas l'être, mais je suis prêt. Utilise-moi, forme-moi, dirige-moi. Je veux être malléable dans tes mains comme de l'argile entre les mains d'un potier. Je veux être à ton service. Je veux être à ton service. Et si le Saint-Esprit a réveillé aujourd'hui un appel qui était latent, si vous avez soudainement reçu quelque chose de nouveau de la part de Dieu, si vous êtes prêt à vous laisser transformer par Dieu, parce que ça coûte aussi, il faut le reconnaître. Bref, si vous êtes prêt à être appelé, alors levons-nous et montrons par une position debout que le Seigneur peut nous utiliser. Non pas selon nos capacités ou nos envies, mais selon son plan divin. Il n'y a pas forcément besoin qu'il y en ait beaucoup. Mais chacun, chacune qui se lève s'offre vraiment pour ce service et répond à l'appel ce matin. Seigneur, tu vois toutes les personnes qui se sont levées, j'aimerais te dire merci. Merci pour ces hommes, ces femmes, remplis de toi, remplis d'amour, remplis de courage et d'audace. Donne-leur, Seigneur, que dans les prochaines semaines, voire les prochains jours, tu puisses te révéler à eux et que tu puisses leur donner ce que tu as choisi de leur donner. Parce que ta parole est très claire, tu nous dis, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi, j'aimerais vraiment donner cette parole d'une façon prophétique pour chacune des personnes qui s'est levée. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Amen.